à voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Carla Bruni. Ce soir, le fil de la musique.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour.
Après avoir parlé de la famille et de la beauté, on va parler de la musique. Est-ce que la musique est un des fils conducteurs de votre vie? Et posant la question, je connais la réponse.
Oui. Et oui, vraiment un fil conducteur. Mais peut-être même avant d'être née, parce que ma mère, tous les jours de sa vie, mis à part quelques années où mon frère, son fils était très très malade, et là je crois qu'elle n'avait plus de goût à la musique, mais toutes les années, donc même quand j'étais, j'imagine, dans son ventre, jouais 7-8 heures de musique par jour. Donc j'ai dû entendre la musique très tôt. Mon père jouait aussi, lui, tous les jours. Donc j'ai grandi déjà entre ces deux pôles où les deux personnes les plus importantes de ma vie étaient tout le temps dans la musique. Et j'ai presque l'impression que c'est comme un autre enfant de ma famille, la musique.
Vous avez donc été élevée dans le culte de la musique classique?
Oui.
Mais vous, quelles sont vos influences? On parle de Bob Dylan, Clapton.
Oh oui. Oh, moi, j'ai des influences extrêmement larges. Ça a commencé de manière assez confuse. Une chanson par-ci, une voix par-là, à la radio. Ça, l'avantage de la musique pop, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller la chercher. Elle vient à vous quand même. Hein. Tandis que la musique classique est un tout petit peu plus laborieuse à trouver. On a toujours l'impression que c'est un truc pour élitiste, non mais. Alors que c'est exactement comme la musique pop, c'est la même chose. Mais c'est la même simplicité. C'est ça que j'aime, je crois, de la musique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprentissage aucun. C'est quand même très direct, c'est un petit peu comme le parfum. Ça va, je crois, dans un endroit de notre cerveau qui est tout à fait disposé, à tout âge, à recevoir cette manne qu'est la musique, cette consolation, cette excitation. Enfin, la musique apporte tout, tout. Elle est là même pour les choses les plus graves. Elle est là pour le deuil, par exemple. Donc, j'ai connu la musique dès mon enfance. Mes influences musicales, elles sont très, très larges. C'est pour ça que je commence pas à faire des listes, parce que bien sûr, il y a Dylan, bien sûr, il y a Clapton, bien sûr, il y a Barbara, bien sûr, il y a Brassens. Mais il y a aussi, évidemment, les Beatles, les Clash, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, tous les Italiens. Mais aussi, alors, par exemple, je connais pas particulièrement la musique grecque ou espagnole, mais quand je l'entends, j'ai l'impression que nous, les peuples latins, nous avons quand même tous les mêmes racines musicales. Je crois qu'on a commencé au même moment. À prier, à chanter, à imaginer, à rêver. Je crois que c'est Sapiens qui a fait ça, quoi.
Et comment vous en êtes venu à quitter votre métier de top modèle?
Ça, c'est un métier qui m'a quand même quitté. Parce que c'est une chose qui fait, ce métier-là. C'est un peu comme le métier des sportifs. C'est pas un métier dans lequel l'expérience est
valorisée.
Voilà. On dirait qu'on n'a pas trop de syndicats, nous. Et alors, je voulais dire à France Culture, je voulais dire à l'antenne. Je veux dire que je rigole. Hein. Et donc, oui, non, c'est un métier dans lequel on est jeté dehors, ouais. Et pour des causes effroyablement cruelles. Comme par exemple l'âge. Donc ça vous arrive quand même à 25, 26 ans, 27, 38, 30 ans. Il y a très peu de gens qui restent mannequins jusqu'à 50 ans.
Et l'aventure, pour vous, elle a commencé avec Julien Clerc?
Oui, elle a commencé avant Julien Clerc parce que j'ai apporté... Donc j'ai un très cher ami, Vincent Pérez, qui est marié avec une de mes meilleures amies, Karine Silla. Et Vincent Pérez était chez Armédia. Et chez Bertrand de l'Abbé, il connaissait la passion qu'avait Bertrand de l'Abbé pour la musique. Donc c'est Vincent Pérez qui m'a pris un rendez-vous avec Bertrand de l'Abbé avant que je travaille pour Julien Clerc, en lui disant « Bertrand, est-ce que vous pourriez écouter les chansons de ma copine Carla ? C'est fantastique, pas évidemment, mais ma petite bande de copains se cognait mes chansons depuis déjà 7-8 ans. À la guitare, et j'ai changé le tempo de celle de la semaine dernière, je peux te la faire écouter. » Parce que quand on n'a pas de public, on choisit qui on peut et on les harcèle. Et c'est une bonne technique, je le dis à tous les auteurs, compositeurs, émergents. N'hésitez pas à emmerder les gens autour de vous, c'est très utile. Ça vous donne confiance, ou pas. Mais en tout cas, Vincent a appelé Bertrand de l'Abbé, qui m'a reçu, j'ai apporté une cassette de maquette, et c'est Bertrand de l'Abbé qui a fait basculer ma vie, parce qu'il a dit, d'abord je lui ai donné cette cassette un vendredi. Donc Bertrand de l'Abbé avait dans son écurie, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Julien Clerc, et Alain Souchon. Et là je fais vraiment une longue liste de très très grands artistes, chanteurs, musiciens, qui travaillait encore à l'époque avec lui. Et il est un grand professionnel. Et je donnais cette cassette le vendredi, et lui m'a dit, je vous rappellerai quand je l'aurai écoutée. C'était l'époque où on avait encore les répondeurs. On avait assez peu de téléphones portables. C'était il y a 20 ans environ. Et j'oublierai jamais, le lundi matin, à 9h du matin, j'ai entendu le répondeur se déclencher, j'ai même pas répondu, j'imaginais pas tout ça puisse être lui. C'était Bertrand de l'Abbé qui m'a dit, j'ai écouté votre cassette pendant ce week-end, prenons rendez-vous, je dois vous parler. Et donc il m'a dit, vous êtes absolument un auteur-compositeur, et une chanteuse, et je tiens absolument à produire votre premier album, et avant cela, je tiens à ce que vous me donniez quelques textes que je vais proposer à d'autres gens que vous. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire pour Julien Clerc. Et que j'ai fait mon premier album.
Le premier album, c'est Quelqu'un m'a dit. C'est 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
Je crois davantage maintenant, mais bon.
En tout cas, c'est un succès.
On ne fait pas les comptes des ventes caisses, mais c'est un album qui a eu un chemin extraordinaire.
C'est un succès colossal.
Par rapport à ce qu'il était prévu d'être, colossal. Oui.
Tout à fait. Pourtant, vous n'êtes pas une chanteuse populaire. Pourquoi ?
Mais je veux être une chanteuse populaire.
Vous êtes sûre que vous aimeriez ça?
Ah oui. Ah ouais. Ah oui, parce que nous, les gens qui faisons des chansons, on veut être populaire. On veut pas du tout être pour un petit groupe de gens. Mais je suis une chanteuse populaire, sinon le premier album ne serait pas allé partout.
Mais les textes intimistes.
Intimistes. Écrit à la manière ancienne, je veux dire, des textes dans lesquels j'essaie quand même de tisser un fil, à la manière de tous mes modèles, qui sont tous ces génies que j'admire encore jour après jour. C'est-à-dire, enfin, moi je crois qu'il y a des gens qui dansent sur la musique, je crois qu'il y a des gens qui rêvent sur la musique, et je crois qu'il y a des gens qui écoutent la musique. Je suis sûre qu'ils existent. Parce que moi, j'écoute la musique, par exemple. Donc je suis sûre qu'il y a d'autres gens comme moi. Je suis sûre que je ne fais pas partie d'une élite particulière. Il y a des gens qui aiment écouter la musique, écouter l'histoire. Quelle histoire ça raconte, et si c'est un peu la leur, ou si c'est l'histoire de quelqu'un qu'ils ont croisé même un jour, ou qui a une histoire.
L'histoire de Quelqu'un m'a dit, elle est présente dès la photo de la pochette, qui a été faite par Kate Berry, la fille de Jane Birkin.
La fille de Jane Birkin, et puis une grande, grande photographe, une très adorable femme. Dès que Kate a commencé à faire des photos, bon, moi j'ai rencontré Kate, c'était encore une jeune fille, la fille de Jane Birkin, c'était une espèce de star à l'école où on était, elle était aussi la fille de John Barry, qui était un fabuleux compositeur, et puis elle était libre, elle était magnifique avec ses parents incroyables, son beau-père Serge Gainsbourg, etc. Et puis j'ai vu un jour une photo, sans savoir qu'elle était de Kate, une photo d'une sobriété, d'une simplicité, comme une espèce de pureté. Tiens, ça, c'est féminin pour moi. Si je devais décrire la féminité, je dirais les photos de Kate Barry, parce que, et sans fioriture, quoi. Parce que la féminité, pour moi, ça peut pas être les gens qui ont trois rangs de fossiles. Et pour moi, ça, c'est le travestissement. Mais la féminité, ça doit être quand même pur, quoi, simple.
Il y avait donc un écho entre son travail et votre musique.
Je ne sais pas, il y avait un grand écho entre son travail, elle, et toute leur famille de femmes. Elles sont toutes comme ça. Et c'est des femmes qui, moi, m'inspirent, parce que c'est des femmes qui ne sont pas dans une opulence de féminité, pas dans une opulence de sensualité, pas de maquillage, des femmes un peu comme ma mère. Donc ça m'inspirait beaucoup, et quand j'ai vu cette première photo de Kate, j'ai regardé, j'ai vu que c'était Kate Barry, et je me suis dit, oh mon Dieu, si un jour je réussis à faire un album, je demanderai à Kate de faire ma première photo. Et ça s'est passé comme ça. C'était comme un petit miracle. Dans une vieille maison, à côté de Paris, abandonnée, il y avait un gardien très très ronchon, limite qui boit le matin. Et puis, il nous a laissé rentrer. On était toute une équipe de mode, enfin de photos, avec coiffeur, maquilleur, quelques vêtements, la maison pleine de poussière. On avait l'impression que les gens étaient partis, qu'ils avaient juste fermé la porte, qu'ils étaient partis 50 ans avant, il y avait encore des papiers peints dans les chambres. Et on s'est promené dans cette vieille maison et on est arrivé dans une chambre très vieille et usée, sans aucun meuble ni rien, mais ces belles fenêtres encore. Ça devait être une maison magnifique avant, pleine de vie. On entendait les fantômes de la maison. Et puis Kate m'a dit « Allonge-toi » et paf, on a fait la photo en deux temps, on est parti.
Dans votre deuxième album, vous vous inspirez des poètes. C'est une source d'inspiration, la poésie?
Ah oui. Jamais compris pourquoi tout le monde disait que la poésie est opaque, alors que ça me semble être la chose la plus droite au cœur que je connaisse. C'est le contraire de l'opacité. Parfois, c'est complexe, parce que le sentiment, c'est pas la pensée. Mais enfin, ça me paraît être un truc pas du tout opaque. Pas du tout compliqué. Là, les poèmes que j'ai pris, c'est des poèmes de Yeats, de Dorothy Parker, de Emily Dickinson, de Auden. C'est des poèmes très fameux que j'ai mis en musique sans aucune raison valable.
Votre troisième album, Comme si de rien n'était, qui compte notamment L'amoureuse, sort alors que vous êtes première dame.
Oui.
C'est pas banal.
Oui, c'est pas banal.
Est-ce que vous en gardez que de bons souvenirs?
On garde
de la sortie
bons souvenirs
de,
quand même.
De ce disque.
J'en garde un bon souvenir quand même. Parce que ça a suscité un intérêt qui n'était pas du tout dû à mon disque. Mais moi, c'est comme avec les regards, si vous voulez, je fais pas de casting pour l'intérêt. Voilà, si on s'intéresse à moi, je prends tout. Je me dis, c'est pour des mauvaises raisons. Je vois pas pourquoi il y aurait des bonnes et des mauvaises raisons.
Vous avez été agacé par la presse qui avant vous portait au nu, notamment toute une presse de gauche.
Non, j'étais préoccupée quand elle m'a porté au nu. Je me suis dit, ça va pas durer. Je leur ai donné une bonne occasion de me donner la fessée. Mais ils ne l'ont pas tellement donné. Hein. Ce qui est drôle, c'est que cette presse-là avait beau nourrir une espèce d'urticaire au regard de mon mari, elle n'a pas réussi vraiment à me détester. Tandis qu'il y a des gens qu'elle déteste, ils ont beau faire les deux, il n'y a rien à faire. Hein. T'en rentres pas chez eux, on rentre pas chez eux. Moi, j'étais rentrée. Ils ne pouvaient plus tellement me mettre dehors. Ils sentent bien que je suis comme eux.
Et ça vous fait plaisir hein?
Non, mais ça m'a fait marrer, parce que comme ils sont quand même très, très snobs, hein, ça m'a fait marrer de les voir, oui, être agressifs, mais sans vraiment qu'au fond, ils aiment bien ma musique, quoi. Qu'on le veuille ou pas, Sarko ou pas, ils aimaient bien mes chansons.
Et on peut dire que Nicolas Sarkozy et vous avez des goûts musicaux très différents.
Oui, pas vraiment, parce que... On a une grande différence, c'est la musique anglo-saxonne, parce que lui n'a aucune amitié pour la musique anglo-saxonne. Il n'a aucune affinité pour la musique anglo-saxonne. Je crois qu'il ne l'a pas écoutée assez tôt pour qu'elle rentre en lui. Mais on a beaucoup de points communs pour la musique française.
L'idée, c'est d'un...
Alors lui, il a toujours mis en avant le côté « je suis
populaire,
un gros plouc
hein. »
et tout ça. Oui, non, mais ça, c'est... à des fins électorales. Non, non. C'est vrai que non. Oui, mais moi, j'aime des choses populaires qui ne sont pas des choses qui m'inspirent, mais que j'aime.
Comme quoi, par exemple?
Eh bien, j'aime, par exemple, beaucoup écouter certaines chansons de Hervé Villard, de Michel Sardou. J'aime beaucoup, beaucoup certaines chansons de Johnny. Maintenant, Johnny, on dirait qu'il est au Panthéon avec sa statue, mais il a longtemps été populaire. Il y a des chansons de Johnny remarquables, par exemple celle « Retiens la nuit » qu'a écrit Aznavour, remarquable. Je veux dire, moi je ne suis pas d'accord entre Guy Béard et Serge Gainsbourg, je ne choisis pas Serge Gainsbourg. Je vous dirais même que je pense que je choisis Guy Béard. Dieu sait que je suis fascinée par Gainsbourg, mais des chansons comme celle de Guy Béard, personne ne les a écrites. Personne n'a écrit des chansons qui saisissent le moment de la vie des gens comme l'a fait Guy Béard. Personne. Si vous prenez une chanson que j'ai reprise... Si vous prenez une chanson que j'ai reprise, ça fait la palisse. Là, je vous parle par exemple de chanson qui s'appelle « C'est après que ça se passe ». Donc ça, c'est une chanson sur la rupture entre lui et quelqu'un. On sent bien que c'est une histoire hein, qui est arrivée. Sauf que ça devient une chanson sur « Ce n'est jamais pendant qu'on s'en aperçoit des choses, c'est après ». Et ça, c'est pour tout. C'est pas que pour l'amour, c'est pour tout. Et donc, il y a des phrases dans cette chanson... qui sont des phrases pour nous tous les jours, qu'on peut tous les jours penser. On peut dire la même chose de la maladie, on peut dire la même chose de l'amitié, on peut dire la même chose de toute rupture, on peut dire la même chose des accidents. Tout accident de la vie, c'est après que ça se passe. Pendant, non, mais non, pendant, on s'en rendait pas compte. Et toutes les choses les plus importantes, les choses les plus flamboyantes, les choses les plus bouleversantes, c'est après que ça se passe. Parce que c'est comme si à chaud, on pouvait pas le sentir. Même le plaisir, parfois, même l'amour fou, c'est après que ça se passe, parfois. C'est sur le moment, par exemple, moi, qui suis un peu une angoissée, une anxieuse, je ressens les choses après. Mon mari me dit, ah oui, mais tu es une mélancolique, tu es une nostalgique. Je dis non, c'est après que ça se passe. C'est après que tout est beau. Je la regarde mon enfance, moi j'avais l'impression que c'était un gouffre de solitude. Je la regarde maintenant, je me dis, c'était bonheur. Maintenant que j'ai 51 ans, j'ai vu la vie des autres, l'enfance des autres aussi. C'est après que ça se passe. Ça, Béart savait écrire des choses comme ça. Et l'eau vive, c'est ça aussi, par exemple.
Vous trouvez qu'il est méconnu, Guy Béart?
Non, mais qu'il est un peu méconnu par ces gens dont vous parliez, c'est-à-dire qui décident qui aurait la carte et qui n'aurait pas la carte. Je suis comme les frères Groucho Marx. Je suis comme Groucho dans les films des frères Groucho Marx. Je ne veux pas faire partie d'un club qui me prendrait pour membre.
Vous sortez votre quatrième album en 2013, Iconte, J'arrive à toi, Le Pingouin, Kate et Anita. On est nombreux à dire que c'est votre meilleur album. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Généralement, les artistes n'aiment pas. Un écrivain n'aime pas qu'on dise c'est ton plus beau livre. Est-ce que vous n'aimez pas ça ou vous
Moi,
prenez...
je crois que mon meilleur album, bon, vous allez me prendre pour une girouette, mais c'est celui que les gens trouvent c'est mon meilleur album. Moi, je suis d'accord. Déjà, vous avez écouté mon album, c'est sympa, et vous dites qu'il y en a un meilleur par rapport aux autres, donc éventuellement, vous avez écouté les autres. Donc déjà, je vous bénis, vous pouvez penser ce que vous voulez.
Je les ai tous écoutés. J'ai trouvé que c'est celui qui avait la plus grande variation de votre talent, de la mélancolie à la gaieté.
Au pamphlet,
avec notamment le pingouin.
Qui est un pamphlet.
Dans lequel tout le monde a reconnu François Hollande.
C'est dingue, les questions. Mon copain Maxime Le Forestier, vous avez vu comment je fais du name dropping? Et encore, je pourrais dire ma copine Kim Kardashian, mais j'ose pas, on est sur France Q. Pas exagéré. Et donc, mon ami Maxime Le Forestier, qui a fait un très bel avoinu que j'ai écouté, m'a dit, mais te prends pas la tête pour ce truc de pingouin. Je te dis un truc, quand j'écris On est né quelque part, j'ai reçu de l'aide de tous les gens, de toutes les communautés, du monde entier, et croyez tout ce que j'avais écrit, tous pour eux. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, tu te rends pas compte, les Kurdes me disaient merci pour avoir écrit On est né quelque part. Ils pensaient que j'avais écrit pour eux. Après, les Allemands m'écrivaient merci d'avoir écrit On est né quelque part. Il me dit, tu comprends cette chanson? Bah, c'est On est né quelque part et tout le monde est né quelque part. Donc, tout le monde a pensé que je l'avais écrite pour eux. Laisse faire.
Pour ceux qui n'ont pas écouté le pingouin stigmatise quelqu'un de très mal élevé.
Quelqu'un mal élevé. C'est quelqu'un de pas sympa, c'est quelqu'un de pas super. Ce serait un peu un mufle, vous voyez ce que je veux dire, si je pouvais décrire, par rapport à une femme, et un mal élevé par rapport à un homme, un pingouin, quoi.
En 2017, il y a votre cinquième album. Vous reprenez certains de vos titres anglo-saxons préférés. Est-ce que chaque album a son histoire? Nous, c'est normal, on a nos préférés, parce qu'on a notre sensibilité.
Bien sûr.
Mais pour vous, est-ce que chaque album a son histoire?
Oui, chaque album a son histoire. Par exemple, il y a des albums qui naissent vraiment de leur écriture. Par exemple, mon premier album, il est né de l'écriture et de la incroyable spontanéité qu'on a à faire un premier album. On se juge jamais, parce que c'est comme la première fois. Et puis, le dernier album, par exemple, il vient de la rencontre avec Foster. J'aurais jamais fait un album de reprise, mais si vous m'aviez dit 2 ans avant, est-ce que vous avez envie de faire un album de reprise? Je vous aurais répondu vraiment pas, non, du tout. Je suis pas du tout une chanteuse interprète. J'aime interpréter mes choses que j'écris. Je chante pour écrire. J'ai commencé à chanter comme ça. J'ai pas commencé à chanter comme les génies, comme les voix d'or qu'on a. Par exemple, on prend Johnny, on sent bien que Johnny a chanté pour chanter.
Vous, le texte est primordial.
Non, la musique et le texte sont primordiaux, notamment la musique. Même si je m'applique beaucoup pour le texte, mais si on n'a pas la musique, on n'a rien. Si on n'a pas une mélodie,
tout part de la musique.
De la mélodie. Vous savez, il faut, on appelle ça des ritournelles, car il faut qu'on y retourne. Donc, par exemple, tiens, prenons la Guy Béart, paf, c'est après que ça arrive. Même si là, par exemple, j'ai pas les mots en tête, d'accord, je n'ai pas les mots en tête, mais je peux vous dire, elle fait comme ça. Ce n'est jamais, jamais, jamais avant, non, c'est après que ça se passe, l'amour vida, ce n'est pas, c'est après. Et puis d'ailleurs, si vous et moi, par exemple, on pense à, par exemple, les feuilles mortes, bien sûr, on peut dire que ça serait, c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie, c'est par ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. D'accord ? Ok. Donc ça, c'est Prévert. On est très contents. Et j'ai quand même un petit peu hésité, parce que je ne l'ai pas chanté dernièrement. J'ai hésité à vous la dire pour ne pas faire de faute. D'accord ? Mais jamais je n'hésite. Jamais je n'hésite à faire. Taï 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 Et c'est la musique qui restera des feuilles mortes. Ce ne sera pas les paroles. Parce que Django Edwards, par exemple, c'est la musique qu'il a pris. Parce que dans l'avion, quand vous allez à Bidjunto, vous entendez et peu importe le pas des amants désunis. Vous pouvez mettre... Vous savez que Yesterday, ça s'appelait Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. Oh, I really need my scrambled eggs. Et puis il y en a un qui a dit, quand même, vous ne trouvez pas que la musique est un peu bonne? On pourrait peut-être...
Est-ce que vous pouvez pleurer en écoutant une chanson?
Oui.
Lesquelles?
Oh, beaucoup, beaucoup. Presque.
Une ou deux chansons qui vous bouleversent.
Dernièrement, qu'est-ce que j'aurais pleuré à écouter? Quelle chanson dernièrement, je peux vous dire? Il y a une chanson que j'ai écoutée dernièrement de Francis Cabrel qui s'appelle Mademoiselle Aventure. C'est une chanson que Francis Cabrel écrit pour une femme. C'est une chanson sur l'adoption. Mais il n'écrit pas à l'enfant, il écrit à la mère. Et ça s'appelle Mademoiselle Aventure, et je ne peux même pas en parler maintenant sans que ça m'émeuve. Je ne sais pas comment il a eu cette idée-là, mais franchement, ça s'appelle Mademoiselle Aventure. C'est le contraire de ce qu'on imagine de l'adoption, parce que l'adoption, on s'adresse à un enfant. Et je ne peux pas écouter Mademoiselle Aventure sans pleurer, je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est vraiment tellement... exactement ça que j'aurais voulu écrire un jour sur quelqu'un adopté. Comment il a écrit à la mère.
Vous-même, vous auriez pu adopter des enfants?
Pour moi, c'est pareil, l'adoption que la naissance, sauf que on se cogne pas la péridurale. Pour moi, c'est vraiment pareil. Pourtant, j'ai allaité mes deux enfants et j'ai eu du plaisir, mais je crois que j'aurais essayé d'allaiter des enfants si je les avais adoptés. Pour moi, c'est exactement pareil. Je crois pas du tout dans cette filiation-là. C'est peut-être à cause de mon histoire. J'étais stupéfaite quand les gens se sont déchaînés pour cette affaire de mariage homosexuel. Je suis stupéfaite que les gens jugent les familles homoparentales alors que le lien, ça n'a rien à voir avec la sexualité des gens. Rien à voir avec la reproduction. Rien. Le lien, c'est la seule chose noble qu'on puisse faire, nous. C'est ce qui nous garde en vie. Donc ça n'a rien à voir avec deux pères, deux mères, trois oncles, deux frères. Et tous les hétéros qui se reproduisent sans faire attention parce qu'ils ont des parties génitales, regardez les catastrophes que ça fait. Ben oui, parce qu'on ne les contrôle pas. Ben oui. On va recevoir beaucoup de lettres. Là. Je sens que ça va très mal tourner. Tous mes amis catholiques vont mal le prendre. Et les vôtres, hein, Marie-Laure?
Et les miens aussi. Est-ce que vous
avez... Je pleurniche sur Mademoiselle Aventure. Je fais l'apologie de la famille homoparentale. Non mais je le crois vraiment. Je crois vraiment que la famille, ce n'est pas... ce qu'ils disent, quoi. Ou ce qu'ils croient.
Est-ce que, quand vous montez sur scène, vous avez le trac, toujours, aujourd'hui?
Oh, mais c'est très difficile de ne pas avoir le trac. Ça fait vraiment un effet physiologique très, très majeur.
Et ça se traduit par quoi, chez vous?
Alors, au début, c'était terrible. Vraiment, j'avais des manifestations physiques, donc je vais épargner nos auditeurs. Parce que c'est dégoûtant. Mais, si vous voulez, j'étais pratiquement comme Jacques Brel, mais sans le talent, quoi. C'est-à-dire, on dit toujours Jacques Brel vomissait avant d'aller sur scène. Bah oui, moi aussi, mais après, il n'y avait pas Jacques Brel sur scène, il y avait juste moi. J'ai eu un truc où je ne pouvais pas contrôler ma jambe. Bon, ça, c'est les premières années. Maintenant, ça a complètement changé. Complètement changé. C'est-à-dire, maintenant, c'est une espèce d'excitation un peu très, très puissante, très agréable. Moi, en général, moi, quand je pars en tournée, je tombe malade. D'abord, je dois quitter les enfants, je dois quitter mon homme, donc ça me crève le cœur, donc je tombe malade. Ça me rappelle quand j'étais petite, j'ai l'impression d'être toute seule dans le train avec mon œuf dur. Et puis, vous arrivez sur scène, et déjà, la maladie disparaît. Donc, cette chose d'adrénaline, elle n'est pas anodine, je veux dire. s'ils pouvaient nous sortir des petites pilules d'adrénaline pour les moments difficiles de la vie, parce que ça règle tout.
Et on éprouve quoi quand on chante justement des textes intimistes, intimes, devant une salle comble?
Moi, j'essaye de pas éprouver, sinon j'arrive plus à chanter. Le problème que j'avais au début, c'est que justement, j'éprouvais. Et il a fallu que je sépare un petit peu la chanteuse de la personne qui écrit. Et quand on va sur scène, en fait, on n'est que chanteuse. Donc, on devient un peu comme un acteur ou comme un interprète, quoi. Et c'est la dernière partie du métier, partie fondamentale, mais c'est pas la même partie que l'écriture, du tout, du tout.
Vous avez été actrice.
Donc, oh, ça c'est beaucoup dire.
Dans quelques films, vous auriez pu en faire votre métier.
Ah, je suis
pas entière.
Je suis pas très bonne actrice. Je veux dire que j'ai toujours eu le sentiment de.
Et
pas
pourquoi
être, je sais pas. On ne sait pas pourquoi on n'est pas très bon en quelque chose. On peut être un artiste et ne pas être très bon dans quelque chose. Ma sœur Valéria est une grande artiste. Elle n'est pas bonne chanteuse. Parce qu'elle ne fait pas gaffe à tous les détails des sons. Il faut les enregistrer, les sons, pour chanter, pour restituer. Il faut de la mémoire, je veux dire, pour la musique. Mais elle se met au piano avec une partition. Elle est une magnifique pianiste. Et moi, je ne suis pas... Est-ce que je suis peut-être un peu trop polie pour être une bonne actrice, ou je veux être un peu trop mignonne, ou il y a quelque chose en moi qui... Enfin, c'est... De toute façon, j'ai pas ce tempérament-là, et quand je joue, il y a pas d'incandescence, il y a pas de... J'ai de l'incandescence quand je chante, je sens quelque chose qui brûle au fond de moi.
Vous disiez que vous étiez peut-être trop polie pour être une actrice à part entière. Est-ce que, d'une manière générale, vous n'êtes pas trop polie dans la vie ?
Peut-être. En tout cas, une chose est certaine, ce que je voulais dire, ça veut pas dire que les actrices doivent être impolies. Ou que ce sont des personnes impolies, les actrices et les acteurs. Non, je crois qu'on joue avec ce qu'on est, qu'on est son instrument quand on est acteur. Je crois qu'on chante avec sa musique, mais je crois qu'on joue avec ce qu'on est, si vous voulez. Et puis j'aime le contrôle, or je contrôle tout dans mon travail que je fais, et dans ce travail-là, je contrôle rien. Je suis à la merci du metteur en scène, du scénariste et des autres acteurs. Ça me déplaît. Et peut-être que je suis trop polie dans la vie et peut-être que c'est intégralement faux. Mais moi, ça me réchauffe. Ça me fait du bien. Je me sens bien comme ça. Je me sens bien au chaud. J'ai l'impression que c'est agréable.
Vous ne dites pas que parfois vous avez été encombrée par votre courtoisie.
Vous ne me connaissez pas assez. Si on devient amis, vous allez voir, je retourne les tables. Je suis... Disons, je pense que je suis un peu double.
Merci Carla Bruni.
Merci à
demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Carla Bruni. À voix nue. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.